Voilà, voilà. Ça fait tout bizarre de se retrouver. Les dernières fois que je suis venu, j'avais le droit de ne pas prêcher, donc visiblement c'est c'est fini maintenant. C'est passé. En tous les cas, me retrouver ici et aussi pour la prédication évoque bien sûr pas mal de souvenirs. Et je commencerai par une petite question. Est-ce que vous avez une idée d'un souvenir qui peut-être pour moi reste le plus marquant du temps que nous avons vécu ici? Ouais, je vous demande si vous vous rappelez de mes souvenirs, hein, c'est un peu compliqué, mais un souvenir.
Alors je pense que la présentation d'une de tes filles.
Ah, oh, c'est moins spirituel que ça. Beaucoup moins spirituel que ça. Enfin, ça pourrait être, hein, ça pourrait, mais un autre. Je vous donne une image pour vous aider. C'est comme ça.
Ah oui, les travaux dans le pont.
En plus, c'est d'actualité parce que ça vient d'être fait. J'ai trouvé presque un autoportrait, hein.
C'est vrai que les cheveux, il y en a autant.
À la fois au niveau physique, pour les cheveux, je suis d'accord. Les oreilles, quand même, peut-être pas autant. Mais à la fois pour le physique, peut-être aussi pour la qualité de bricolage. Hein. C'est pas le seul, bien sûr, mais un des souvenirs que j'ai chaque fois que je reviens ici, c'est la question de bricolage et de chantier. Certains le savent peut-être pas, en tous les cas ceux qui sont venus par la suite, mais quand nous sommes arrivés ici, les premières semaines, au moins 2 mois ou 3 mois, je ne me rappelle plus, on était occupés dans la rénovation de l'appartement du haut. La salle ici n'était pas faite. Et j'ai dû mettre la main à la pâte, moi qui adore le bricolage, n'est-ce pas, qui suis particulièrement doué. J'ai dû travailler avec Pierrot peut-être des fois, dû se dire, punaise, ce pasteur, il est nul, il est même pas capable de planter. Non, tu l'as peut-être pensé, tu l'as jamais dit, merci.
Mais si tu faisais des trous comme ça, ça devait prendre du temps, hein.
Ouais, il a dû reboucher un certain nombre de choses. En tous les cas, c'est sûr que moi je garde, pour cet aspect-là, un souvenir un peu mitigé de ces premières semaines-là, parce que bon, le bricolage, non seulement je suis nul, mais en plus j'aime pas, quoi. Parfois on est nul, mais on aime bien. Moi je suis nul et j'aime pas. Et pour moi, le bricolage ou les chantiers, ça rime plutôt avec problème, difficulté. J'ai un peu du mal à comprendre que certains aiment ça, mais bon, visiblement, il y en a quelques-uns dans la salle, donc voilà, il faut de tout. Mais pour moi, ça reste quelque chose de compliqué. Et bien sûr, il y a les chantiers matériels, physiques, mais je trouve que l'Église ressemble parfois aussi à un chantier. Alors, il faut espérer que les pasteurs sont plus doués que ça. Mais l'Église est aussi un chantier, quelque chose que nous sommes appelés à construire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et l'image du chantier est une image riche d'enseignement, aussi pour l'Église. Et je vous invite à réfléchir ce matin sur un épisode particulier de la vie du peuple d'Israël que nous relate le livre de Néhémie. C'est le chantier de la reconstruction de la muraille. Hein, vous savez que Néhémie, c'est quelqu'un dont l'histoire se situe après le retour de l'exil. Le peuple d'Israël a été emmené en exil en plusieurs étapes, hein, après leur désobéissance. Et après ces 70 années d'exil, un certain nombre du peuple d'Israël est revenu progressivement, aussi en plusieurs étapes, en terre d'Israël. Et entre autres, dans ce retour, il y avait la personne de Néhémie qui s'est proposée, qui est partie avec l'aval du roi maintenant lequel c'était, Cyrus, de l'époque, pour reconstruire, entre autres, la muraille de Jérusalem. Alors bien sûr, ça ne nous parle pas directement de l'Église, puisqu'on se situe plusieurs siècles avant le Nouveau Testament, avec ce retour de l'exil, quasiment 5 siècles avant le retour. Mais en même temps, ces passages sont riches d'enseignements pour nous parler aussi, ou nous donner un certain nombre de points de repère et de conseils par rapport à la construction ou au chantier de l'Église. Et je commencerai avec certains extraits qui nous parlent de bâtir ensemble. J'ai un trou dans mon texte, excusez-moi. Ce qui est marquant, donc, je lirai en fait les textes au fur et à mesure, je ne vais pas lire là en global. Quand on lit d'abord le chapitre 3 de Néhémie, il y a quelque chose qui est assez frappant, où on voit tout un tas de catégories de personnes différentes qui se mettent à la construction de la muraille. Et il y a l'idée de construire ensemble, qu'ils sont plusieurs à construire. Et ce premier enseignement, le fait de bâtir ensemble, est quelque chose qui revient de manière très forte dans ce livre de Néhémie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire bâtir ensemble? Et là encore, il y a une petite image que je trouve assez intéressante sur une compréhension possible de bâtir ensemble. Il y en a un qui est dans le trou, alors cherchez pas des équivalences, c'est trouvé sur internet, je ne sais pas quel type de chantier c'est. Il y en a un qui est dans le trou, et puis autour vous avez tous les autres, il y a l'équipe de nuit qui est en pause, il y a le responsable, le chauffeur de camion, tous regardent, alors ils sont ensemble, ils construisent ensemble. Peut-être que Pierrot, parfois, quand il bossait ici, qu'il trimait, il s'est senti un peu comme ça, avec beaucoup qui sont autour, ou d'autres. Mais c'est peut-être, on va dire, une image possible de ce que devient le fait de... où on a l'impression de construire ensemble quand il y en a un qui bosse, et puis d'autres qui sont là, et puis qui regardent, et qui assistent. Le livre de Néhémie nous dit quelque chose d'un petit peu différent. Et dans ces listes des personnes qui travaillent ensemble, il y a un certain nombre de choses intéressantes. Et je vous propose quelques extraits. Donc, ce sont dans le chapitre 3 du livre de Néhémie, un certain nombre de catégories de personnes qui sont mentionnées, qui construisaient ou qui participaient à la construction de la muraille. La première catégorie, Eliashib, le souverain sacrificateur, donc on va dire un prêtre, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis, donc c'est une partie de cette muraille. Derrière lui, travaillèrent les Lévites. Et puis un petit peu plus loin, il est question des sacrificateurs qui habitaient dans la plaine, qui se lèvent aussi et qui vont travailler à cette muraille. Verset 28, les sacrificateurs qui travaillent chacun devant leur maison. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'aucune de ces catégories, que ce soit souverain sacrificateur, que ce soit les Lévites, ne sont des gens du bâtiment, entre guillemets. Ce sont des prêtres, des pasteurs, si on peut dire, ou des enseignants, des théologiens. Et eux se lèvent et ils participent à la construction de la muraille. Peut-être un peu comme un pasteur qui doit faire un chantier. Je ne sais pas s'ils étaient très doués pour ça. Ce n'était pas leur job premier. Ils auraient très bien pu dire, ça c'est pas notre boulot. En disant, nous on ne se salit pas les mains. On est là pour offrir des sacrifices. Ils auraient aussi tout simplement pu dire, on n'est pas doués pour ça. Ils se sont levés et ils ont participé. Un autre extrait, toujours dans ce chapitre 3, il est question d'un autre homme, Shalom, qui travailla toujours à la muraille, et c'est là la mention qui est particulière, avec ses filles. Donc Shalom, fils d'Abrer, chef de la moitié du district de Jérusalem, donc un homme important, qui travaille, dit le texte, avec ses filles. À cette époque-là, bon, bien sûr, les choses ont changé, mais à cette époque-là, c'était probablement pas très bien vu qu'un homme, en plus d'un certain standing, puisqu'il est chef de la moitié du district, travaille avec ses filles pour faire un travail d'homme. Et pourtant, lui et ses filles se lèvent et bâtissent. Là encore, l'idée qu'il y a dans ce chantier de la place pour des gens qui, au moins dans l'esprit des gens, sont peut-être des citoyens de seconde catégorie. Les filles à l'époque n'étaient pas forcément très reconnues pour ce qu'elles étaient, et pourtant elles participent. Alors que peut-être qu'il y a des gens qui devaient voir ça en se disant « Oh punaise, il bosse avec ses filles, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Elles ne vont jamais être capables de faire du bon boulot. » Ils participent aussi. Et peut-être l'extrait que j'aime le mieux, c'est celui-là. À côté d'eux, travaillèrent une autre famille, les Tekoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur Seigneur. Alors on pense qu'il s'agit probablement, le Seigneur en l'occurrence c'est Néhémie, le chef. Il y a même des gens qui ont participé à la construction, qui visiblement, aujourd'hui on les appellerait des râleurs. Des gens qui avaient du mal à se soumettre aux structures d'autorité en place, Néhémie probablement, et ils ont aussi participé. Même dans ce chantier, il y a de la place pour les moins enthousiastes. Et je vise personne et je regarde personne en disant ça, même pour les râleurs. Je regarde personne pour que personne se sente visé. Mais quelque part, ça fait du bien aussi de se dire que même pour les gens qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à rentrer dans le moule, si on peut dire, il y a de la place dans ce chantier. Et se bâtir ensemble, si on repense à l'image que j'ai montrée tout à l'heure, ça ne veut pas simplement dire que on est là tous ensemble et puis qu'il y en a un qui bosse et tout le monde regarde. Ça veut dire avec tout le monde. Et ce qui se passe pour cette construction de la muraille, c'est que chacun trouve une place, y compris ceux qu'on pourrait être tenté d'écarter parce qu'ils ne sont pas spécialistes, ou qui pourraient eux-mêmes être tentés de s'écarter en disant « c'est pas notre job », y compris ceux qui ont un peu de mal à rentrer dans le moule, y compris ceux qui ont un statut social qui font qu'ils sont peut-être, à vue humaine, méprisés. Tous participent à la muraille, à un endroit qui est le leur. Et je trouve que ce premier aspect du texte est quelque chose qui a beaucoup à nous dire sur le chantier de l'Église. Il y a à la fois de la place pour tous, mais aussi une attente vis-à-vis de tous. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que cet engagement ne se fait pas uniquement sur la base des dons. C'est pas seulement les gens qui sont doués pour ça qui travaillent. Et je fais ici une remarque par rapport à la question du discernement des dons dans l'Église. Je suis pour le discernement des dons. C'est pas ça la question. Je crois que nous devons, dans l'Église, réfléchir aux domaines dans lesquels nous nous sentons à l'aise, les domaines avec lesquels nous pensons avoir des capacités que le Seigneur nous a données. Il y a notre propre sentiment, il y a le discernement de l'Église. qui va reconnaître en nous un certain nombre de compétences et nous confier des responsabilités en fonction de cela. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je trouve qu'il faut le faire. En même temps, il me semble que parfois, on est tombé dans une autre extrême. Vous savez, c'est souvent comme ça. Il y a quelques décennies en arrière, c'est le pasteur ou les anciens qui faisaient tout et qui avaient tous les dons. Et puis, à partir de là, il y a eu une réaction. On s'est dit, voilà, il faut le discernement des dons dans l'Église. Chacun doit trouver son rôle, sa place. Et c'était salutaire, c'était nécessaire de le faire. Mais c'est un peu comme si on était parfois allé un peu trop loin dans l'autre extrême. Dans le sens que on cherche tellement notre don, et parfois on le cherche toute notre vie, et une fois qu'on l'a trouvé, alors surtout qu'on ne me demande absolument rien d'autre que le don que enfin j'ai trouvé. Et une fois que j'ai trouvé mon don, je ne suis prêt à m'engager plus que sur cette seule base. Surtout ne rien me demander d'autre. Et là, je vois autre chose. Je vois des gens qui ont des capacités, qui sont doués dans certains domaines et qui ont des compétences. Mais des gens qui sont capables aussi de travailler dans d'autres domaines que les dons qui leur sont propres, simplement parce qu'il y a un besoin. Et le don, au sens biblique du terme, c'est pas uniquement la capacité que le Seigneur nous donne, bien sûr qu'il y a cette dimension-là, mais le don, c'est aussi la tâche que le Seigneur confie parce qu'il y a un besoin, même si ça ne correspond peut-être pas toujours à mes capacités ou à ce que j'ai envie de faire. Et le Seigneur peut parfois nous confier des tâches qui ne sont peut-être pas celles que j'aimerais, pas celles pour lesquelles je me sens le plus compétent, mais ça fait partie des dons. Et quand il y a un besoin, le don se définit aussi en fonction des besoins. Et je trouve que cet exemple de la construction des murailles nous rappelle cela de manière assez forte et nous invite à réfléchir à cette question des dons. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas opposer les choses. C'est important de discerner ces dons, de réfléchir, que l'Église réfléchisse aux domaines dans lesquels chacun se sent à l'aise et que nous servions, on peut même dire en priorité dans ces domaines-là, mais sans que cela exclue le fait que nous puissions être appelés à mettre la main à la pâte dans des domaines qui ne sont peut-être pas les domaines dans lesquels nous nous sentons le plus à l'aise. Eux, ils sont quand même restés lévites ou sacrificateurs. Ils n'ont pas changé de catégorie, mais ils ont été capables d'aider là où il y avait besoin. Bâtir ensemble, c'est bâtir avec tout le monde, dans les dons qui sont donnés, mais aussi en étant prêt, peut-être parfois, à sortir de des catégories que nous avons en mettant la main à la pâte dans des domaines qui ne sont peut-être pas nos domaines de compétences premières. Première image donc de ce texte ou de cette image du chantier de la construction de la muraille. On pourrait dire pour le moment on est dans un domaine où ça a l'air très simple et quasiment idyllique. Tout le monde met la main à la pâte, la muraille se construit. C'est formidable. Le texte de Néhémie montre que les choses ne vont pas forcément aller aussi simple que ça. Il est aussi question, dans cette construction de la muraille, d'opposition et de moquerie. Et assez rapidement, lorsque les Juifs commencent à construire la muraille, on voit qu'il y a des gens qui vont s'opposer à cette construction. Lorsque Sambala, c'est donc un des adversaires de Néhémie, apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées ? Tobia, l'ammonite, était à côté de lui et dit ouais, qu'il bâtisse seulement, si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre et ça va s'écrouler. L'opposition dans la moquerie. Il y avait à l'époque de Néhémie des gens qui n'avaient pas intérêt à ce que cette muraille se reconstruise, soit reconstruite. Sambala et Tobia, c'était les adversaires des gens. Ce qu'il faut s'imaginer pour comprendre ça, c'était, il faut remonter 70 ans en arrière, quand le peuple a été déporté. À l'époque, les rois, quand ils déportaient comme ça les peuples, donc tout le peuple de Juda autour de Jérusalem a été déporté, mais les rois faisaient venir d'autres peuples pour occuper la place laissée vide, des peuples d'autres origines. Les Judéens sont partis à Babylone, et il y a d'autres peuples qui prennent la place, entre autres des Ammonites, d'autres, Sambala c'est un Horonite, enfin des peuples des alentours, et il y a une espèce, au même endroit, une espèce de mélange de population qui se fait. Mais ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ces gens-là sont aussi, les rois leur accordent un certain nombre de responsabilités. Et Sambala et Tobia étaient des gens qui avaient un certain statut à l'époque, ce n'étaient pas des juifs, mais ils avaient un certain statut. Et forcément, lorsque les juifs reviennent, reconstruisent la muraille, ces deux personnes-là, à juste titre, d'une certaine manière, commencent à se dire « si les juifs reconstruisent, nous, on risque de perdre nos avantages. Si en plus ils reconstruisent, et qu'ils se révoltent contre le roi qui les a déportés, ça va nous retomber dessus aussi. » Il y a des gens qui étaient en risque de perdre un certain nombre d'avantages sociaux, économiques. Et c'est pour ça qu'ils réagissent. De la même manière que parfois dans l'Église, quand on construit l'église, j'entends, il y a des personnes qui le voient d'un mauvais œil. Alors, ce n'est pas forcément qu'ils ont des avantages à perdre, mais qu'ils voient peut-être un certain nombre de dangers avec la construction d'une communauté, ou que ça risque d'amener éventuellement quelques troubles dans la ville, j'en sais rien. Cette réalité de la moquerie dans la construction du chantier est aussi une réalité à laquelle nous pouvons assez facilement nous retrouver confrontés lorsque nous voulons vivre en Église, construire ce chantier de l'Église. Et on est parfois surpris de la moquerie qui arrive, comme si c'était quelque chose de pas normal, alors qu'à la base, c'est quelque chose de normal en soi. Comme chrétiens, nous ne sommes pas forcément épargnés. Et je trouve que face à cette moquerie, la réaction de Néhémie est admirable. Il prononce cette prière « Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête, livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. » car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ce que je trouve intéressant dans cette prière de Néhémie, c'est qu'il ne rend pas l'appareil. Il ne cherche pas à détruire les adversaires, mais il s'en remet à Dieu. Alors bien sûr, on est encore, entre guillemets, à la sauce de l'Ancien Testament, hein, faire retomber leur déshonneur sur la tête, ne leur pardonne pas, que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi. Jésus, plusieurs siècles plus tard, en particulier dans le sermon sur la montagne, montrera que là, il y a un stade qui doit être dépassé, qu'on ne peut pas en rester là. Jésus dira qu'il faut aimer ses ennemis. Hein ? Vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez vos amis et vous haïrez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez même vos ennemis. Donc, on ne peut pas prendre ça comme argent comptant. Par contre, ce qu'on voit là-dedans, c'est l'attitude de Néhémie qui consiste à se confier d'abord dans l'Éternel, se tourner en Dieu parce qu'il a confiance dans l'agir de Dieu. Il ne va pas lui-même, de son propre chef, entrer dans une attitude d'opposition ou de réaction contre. Et là encore, nous avons un bel exemple qui peut nous inspirer dans notre manière d'agir face à la moquerie. Il me semble que trop souvent, nous agissons par nous-mêmes, sur la base de nos émotions, au lieu de nous reposer sur le Seigneur, dont nous savons qu'il sait tout, qu'il voit tout, et qu'il jugera au final selon sa justice parfaite. Il ne s'agit pas de rester passif devant le mal. Le but, c'est pas de se faire marcher dessus, mais c'est de créer les conditions qui permettront de réagir d'une manière juste. C'est de prendre un peu de recul, de ne pas réagir du tac au tac. C'est ce qu'il fait Néhémie quand il se confie en Dieu. Il crée un contexte, il cherche son apaisement en Dieu, et sur la base de cet apaisement, il pourra aussi trouver l'attitude qui est juste. Et nous, lorsque Jésus nous invite à aimer nos ennemis, c'est un peu dans le même sens. C'est de prendre du recul, nous calmer devant le Seigneur, pour pouvoir créer les conditions qui vont nous aider à trouver la bonne manière de réagir face à la moquerie. Et c'est là un autre enseignement de cette construction de la muraille que nous montre Néhémie. Malheureusement pour lui, on voit aussi que ça ne va pas forcément régler tous les problèmes, puisque la suite du texte montre que de la moquerie, on va passer à une volonté d'attaque physique de la part de ses adversaires. Le peuple prit à cœur ce travail de la reconstruction de la muraille, mais Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens, donc tous ces peuples-là, hein, aux alentours, furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. On passe de la moquerie à l'intention de nuire physiquement. Et à partir de là, on entre dans un autre thème, on pourrait dire, où il est question de continuer à bâtir sans se décourager. Alors que on est encore un stade plus loin que cette moquerie. Nous avons prié notre Dieu, et c'est donc la réaction de Néhémie face à cette volonté de destruction des adversaires. Nous avons prié notre Dieu et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux, donc contre les adversaires. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ils établissent une garde, mais ce qui était à prévoir commence à arriver, le peuple commence à se décourager. Les travaux en eux-mêmes étaient considérables, il y avait la moquerie, et maintenant il y a ces menaces d'attaque physique, ça s'accumule, et il commence à y avoir du découragement. Comme dans le chantier de l'église, où des fois tout simplement, les choses s'accumulent et ça commence à faire trop. Le chantier est grand, la moquerie, on a réussi à passer au-delà ou autre chose, et puis encore une autre chose qui vient par-dessus. et le découragement commence à venir. Et là encore, Néhémie nous offre un bel exemple dans ce qu'il fait. Donc c'est lui qui raconte « C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par clan, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais, je me levais et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on avait déjà, au verset 3, si je reviens un peu en arrière, la mention de la prière. Hein, nous avons prié Dieu à cause d'eux. Et la mention de l'établissement d'une garde. Et ensuite, il est question pour Néhémie d'armer le peuple, de leur donner voilà, des armes pour faire face. C'est intéressant de voir comment la prière, dans ce cas, ne conduit pas à la passivité, mais conduit à l'action. C'est tout le contraire de cette histoire que vous avez peut-être déjà entendue, hein, du petit garçon ou de la petite fille qui a un contrôle le lendemain à l'école, qui prie le Seigneur, hein, « Seigneur, aide-moi », et puis voilà. Puis une fois qu'il a prié, qu'il va regarder la télé en pensant que la chose est réglée, et puis voilà, le Seigneur interviendra. Ça nous fait rigoler, mais est-ce que c'est peut-être pas un peu comme ça qu'on se comporte des fois, hein? On prie, ouais, ok, on a prié, et puis on oublie que notre prière doit nous conduire aussi à un comportement et à une action. Néhémie ne se contente pas de prier, il agit, il prépare ses troupes. Mais là encore, c'est important de voir qu'il ne le fait pas en les invitant à se confier en leur propre force. Il les invite d'abord à se souvenir du Seigneur. Souvenez-vous du Seigneur. Ne les craignez pas, et le fait de ne pas craindre est lié à un retard, à un regard en arrière. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. L'invitation à regarder en arrière, avant même d'agir, l'invitation à se rappeler ce que le Seigneur a fait déjà dans le passé, pour en tirer courage pour aujourd'hui. Et là encore, nous avons une piste pour chercher, trouver courage, regarder en arrière, puiser dans le souvenir des actions passées de Dieu, dans ce qu'il a fait par le passé. Et quelque part, je suis quasiment sûr que si nous y réfléchissons bien, nous voyons en regardant dans le passé que le Seigneur a toujours été là, qu'il a toujours été fidèle. Parfois, sur le coup, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on revisite les années, les décennies qui ont précédé, on se rend compte que ce Seigneur était là, qu'il était présent. Et c'est ce que Néhémie invite à faire après la prière, de se rappeler du passé. Et c'est dans ce souvenir du passé qu'on peut trouver la force pour ne pas craindre aujourd'hui les attaques des ennemis. Parce que les ennemis d'aujourd'hui ne sont pas forcément plus forts que ceux du passé. Et si le Seigneur a délivré dans le passé, il pourra le faire aujourd'hui encore, dans le présent. Et l'expérience n'est pas inutile parce que nous voyons que ce peuple reprend courage. Il continue à bâtir et chacun retourne à son ouvrage. Les ennemis apprennent que le peuple est averti, nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Donc le peuple puise son courage dans le souvenir de ce que Dieu a fait, il y a cette action de Néhémie qui arme les clans du peuple, et l'entreprise des ennemis, finalement, n'aboutit pas. Mais la leçon a quand même porté, puisque l'action qui suit la prière de Néhémie, c'est d'armer les familles du peuple. Et depuis ce jour, Néhémie raconte, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'ouvrage et l'autre moitié tenait en main les lances, les boucliers, les arcs et les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein et ils travaillaient ainsi. La prière n'empêche pas de réfléchir concrètement aux actions qui doivent être menées pour se protéger. Ici, dans ce contexte-là, il est question d'armes et de cuirasses. Là encore, on est dans l'Ancien Testament, mais ce texte-là me fait penser à un autre texte du Nouveau Testament, pour le coup, où il est question des armes que le Seigneur nous invite à avoir. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, nous lisons ce texte bien connu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal et dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit. Dans notre service pour le Seigneur, pour la construction de l'Église, nous oublions parfois ces armes spirituelles ou nous les négligeons. Vivre dans la vérité, être animé de l'évangile de paix, être porteur de paix, la foi que l'on entretient, le salut auquel nous pensons qui est notre sécurité, se nourrir de la parole de Dieu, de la prière. Ce n'est pas le moment maintenant de développer chacun de ces aspects, on pourrait le faire. Je voulais juste rappeler ces éléments parce que ce sont les armes que le Seigneur nous donne pour ne pas baisser la garde, comme les Juifs à l'époque de Néhémie, en gardant leurs armes, ont pu ne pas baisser la garde face à l'opposition, face à l'adversité. Ce sont ces armes qui nous permettront de continuer dans le chantier où nous sommes invités à travailler, ce chantier de l'Église, dont Paul nous rappelle qu'il ne s'agit pas de lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des choses terrestres, mais contre des principautés, des pouvoirs, contre des forces qui nous dépassent, qui sont bien plus puissantes que nous, mais contre lesquelles nous avons des armes, et ces armes sont là. Ce ne sont peut-être pas celles auxquelles nous pensons en premier lieu, mais qui nous permettent de lutter et de résister. Et je vois là une exhortation à rester vigilant dans notre vie de foi avec le Seigneur, les uns avec les autres, pour ne pas tomber, c'est un peu le risque que nous avons, de tomber dans une forme d'activisme qui ne reposerait plus sur l'essentiel, à savoir cette relation vivante avec le Seigneur. Et la réalité de nos vies montre que c'est souvent pas si évident que ça, de garder cet équilibre entre l'action pour le Seigneur et l'importance de notre vie de foi personnelle, mais aussi communautaire. Un dernier aspect que j'aimerais relever sur ce texte de Néhémie, sur lequel on passe peut-être en l'oubliant, c'est la mention du corps. Ça tombe bien, on avait une trompette tout à l'heure. Ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée au rein, et ils travaillaient ainsi, c'est ce qu'on vient de voir. Celui qui sonnait du corps se tenait près de moi. Donc c'est toujours Néhémie qui parle. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Rassemblez-vous auprès de nous à l'endroit d'où vous entendrez le son du corps. Notre Dieu combattra pour nous. Il faut, y compris dans le chantier de l'Église, un sonneur de corps. On a de la chance, il ne s'agisse pas de cloche dans le texte, sinon on aurait pu dire sonneur de cloche. Mais vous avez une idée à quoi ça pourrait correspondre dans l'Église, ça? Je vais quand même un peu travailler, parce que sinon vous allez vous endormir. Le sonneur de corps dans l'Église, ça serait quoi?
Le pasteur, ça serait...
Hein?
Ou ça serait qui, non?
Qui ou quoi? Ouais, mais là, tu réponds pas, là.
Non, mais je...
Le pasteur.
Le pasteur. Ouais. Plus simple que le pasteur. Enfin, ça peut être le pasteur.
Je crois qu'on est tous des sonneurs de corps.
Voilà. Et les moments dans lesquels on peut, un moment particulier du culte dans lequel on sonne du corps, ou quelqu'un sonne du corps, et éventuellement les cloches. Et c'est pas la prédication.
Non, non, mais ça peut être la présidence, ça peut être une autre chose, ouais. Ça peut être un chant, ça peut être...
Ouais. Mais le but, c'est de rassembler les gens par rapport à un besoin particulier.
La scène.
La scène. Vous êtes vachement spirituel, hein.
On est trop spirituel.
Pensez, oui, bien, non, mais tout ce que vous dites est juste, hein. Mais il y a un moment particulier qu'on considère pas toujours comme faisant partie du culte. L'après-culte, quand on discute ensemble.
L'accueil.
Moi, je pense aux annonces. Vous savez, ces annonces où on dit les activités de l'Église, mais on partage aussi les situations des uns et des autres. Ça peut être dans des moments de prière, tous les moments du culte où on peut partager les besoins des uns et des autres. Parce que finalement, c'est ça, sonner du corps, c'est dire attention, là, il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, qui a besoin de nos prières, qui a besoin de soutien. Et tous les moments du culte où ces choses-là sont possibles, ce sont des moments où nous sonnons du corps et où nous invitons la communauté à se rassembler d'une manière ou d'une autre autour d'un besoin. Et nous oublions un petit peu ces choses-là, parce que le chantier est vaste et que le risque est là d'être tellement préoccupé par notre propre bout de mur dans ce que nous faisons. Et peut-être que une église comme à La Vosges, le risque est encore plus grand du fait qu'il y a un éloignement géographique, des uns et des autres, qui fait que c'est pas toujours évident de savoir ce que vivent les uns et les autres, mais c'est dans ces cadres, dans ces cadres-là que nous partageons les choses, que nous rappelons les choses qui nous permettent de rester unis. Et la question ici est déjà de savoir, mais aussi de se rappeler que tous ces moments de partage, de nouvelles, alors nouvelles, annonces, réunions de prière ou d'autres choses, sont importants pour rester unis dans ce chantier et que personne ne devienne trop faible ou isolé dans le bout du mur qu'il est en train de construire. Nous avons vu plusieurs choses dans ce texte. Nous avons vu la question de bâtir ensemble. Bâtir ensemble, pas seulement à plusieurs, mais tout le monde, ensemble, selon les besoins, avec les dons que nous avons, mais peut-être aussi parfois en sortant un peu des limites que nous nous mettons parfois et en acceptant que le Seigneur puisse parfois nous demander des choses qui nous mettent un peu au défi. Nous avons vu de bâtir malgré la moquerie et l'opposition, en cherchant l'apaisement en Dieu pour pouvoir trouver la bonne manière de faire. Nous avons vu de bâtir sans se décourager, en regardant en arrière pour tirer courage pour aujourd'hui. Nous avons vu de bâtir sans baisser la garde, c'est-à-dire de rester vigilant avec ces armes que le Seigneur nous donne pour garder une relation vivante avec le Seigneur. Dans chacun de ces aspects, il y a dans le texte de Néhémie des éléments utiles pour notre vie d'Église, pour ce projet de Dieu que nous sommes appelés à bâtir ensemble avec Christ comme pierre angulaire. Maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, je finis avec un petit côté peut-être un peu provocateur, que vous vous tenez tout fier devant le mur que vous avez réussi à construire, vous prenez votre Bible et vous lisez Éphésiens 2, 14. Christ est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur que vous venez de construire peut-être, le mur de séparation et d'inimitié. C'est pas que de la provoque, parce que on se trompe parfois de mur dans ce qu'on construit. Nous construisons parfois des murs pour nous protéger ou pour nous couper des autres, nous donner une certaine sécurité. Ces murs-là ne sont pas les bons. Christ est venu détruire les murs qui nous séparent. Et de manière un peu paradoxale, les murs que nous sommes appelés à construire dans l'Église, ce sont les murs qui nous aident à nous rassembler les uns les autres, les uns avec les autres. Mais jamais, au grand jamais, des murs qui feraient que nous nous séparons les uns des autres ou nous faisons des clans entre nous. Ça serait les pires des murs que nous pouvons construire dans l'Église. Et je crois que c'est important de rappeler cela lorsqu'on parle de construire l'Église ou de construire des murailles. Ce ne sont pas des choses qui doivent établir des clans entre nous. Ce ne sont pas non plus des murs qui doivent nous séparer de l'extérieur, mais au contraire qui doivent nous aider à aller les uns vers les autres, comme Christ a traversé ces murs pour nous aider à vivre ensemble. Alors voilà, c'est ce que je vous souhaite ici dans votre chantier, qui est toujours d'actualité, comme il l'est pour chaque communauté. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous encourage, que vous puissiez construire, continuer à bâtir ensemble, en Église, des murs qui rassemblent, avec tout ce que nous avons vu, ensemble, avec les dons que vous avez, même s'il y a de l'opposition, même s'il y a des moments difficiles, mais en sachant que nous avons aussi un Seigneur qui est là pour nous encourager, qui nous donne des outils pour continuer à bâtir avec les armes qu'il donne. Et ce chantier, dans cet esprit, est un chantier qui est à la gloire de Dieu. Je vous invite à prier ensemble avant de... Seigneur Jésus, merci de pouvoir, au travers de ta parole, nous rappeler ces enseignements qui nous parlent de la manière dont tu veux travailler avec nous. En tant que communauté, en tant qu'Église, tu vois, Seigneur, les difficultés que nous avons parfois à travailler ensemble. Tu vois les défis auxquels nous sommes confrontés, l'adversité peut-être, parfois le découragement. J'aimerais te remercier, Seigneur, pour les éclaircissements, pour les encouragements que tu donnes dans ta parole et particulièrement dans ce texte de Néhémie. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas seuls dans ce chantier, mais tu nous aides à travailler ensemble, les uns avec les autres. J'aimerais te prier tout particulièrement pour l'Église de la Vosges, ici. Tu en connais la réalité, tu connais, Seigneur, les points forts, aussi les défis, les fragilités. J'aimerais te demander, Seigneur, que tu continues à bénir ce chantier, aider les uns et les autres à œuvrer ensemble pour ta gloire, à s'encourager les uns les autres, à être aussi attentifs, même s'il y a de l'éloignement géographique, même si il y a peut-être des situations qu'on ne voit pas toujours, mais à rester attentifs les uns vis-à-vis des autres pour continuer à construire ensemble, à s'encourager les uns les autres. Merci, Seigneur, pour le témoignage de chacun, de chacune, pour la présence de chacun et chacune dans cette communauté. Merci parce qu'au travers d'elle, tu continues ton œuvre, ici, dans cette région, et partout où se trouve l'un ou l'autre foyer de cette communauté. Merci, Seigneur, de pouvoir te la confier et prier, oui, que tu continues à poser ta bonne main sur chacun, sur chacune. C'est ma prière et mon soutien et mon désir, Seigneur, que tu puisses continuer à œuvrer. Merci, Seigneur, pour ta présence et de savoir que, en chaque circonstance, tu es là et tu n'abandonnes pas tes enfants. Amen.